révèle les secrets d'un art qui est d'ailleurs une des matières premières de cette émission, le roman. Un art, ou plutôt un artisanat, selon Thomas Lavacherie, qui, invoquant Alexandre Dumas, Paul Auster, J.K. Rowling ou Hergé, nous livre ici les techniques de fabrication des écrivains, exercice pratique à l'appui. L'artisanat du roman, initiation à l'écriture créative, c'est le titre de votre livre. Thomas Lavacherie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même romancier, écrivain, auteur, illustrateur notamment de Bjorn le Morfyr, mais aussi professeur d'écriture, en particulier d'écriture jeunesse. Et pour démarrer ce manuel d'écriture, vous commencez en fait par briser un tabou, parce que c'est vrai que l'idée qu'il y a une technique pour écrire un roman, qu'il existe une série de techniques, elle va à l'encontre d'une vision très romantique qu'on peut avoir d'un écrivain qui a une sorte de don, qui se réveille la nuit et qui couche sur le papier toute une série de paragraphes. On veut croire à ça, en particulier dans le monde francophone en fait.
Oui, il y a une particularité, effectivement, en France, en Belgique francophone, où on a encore, bien qu'elle ait battu en brèche aujourd'hui, une vision romantique de l'écriture, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire les auteurs qui auraient une petite voix qui leur parle à l'oreille, les muses seraient à la base de tout, il n'y aurait pas de technique. Alors, nous, on voit les choses encore beaucoup comme ça. Aux États-Unis, par exemple, pas du tout. Il y a, depuis des décennies, depuis l'après-guerre, énormément de cours d'écriture dans les universités, donnés généralement par de grands écrivains, comme Joyce Carol Oates, par exemple. Et il y a aussi de grands écrivains qui en ont suivi. Je cite John Irving et Philip Roth, qui ont suivi des cours d'écriture. Alors, je ne sais pas ce que ça leur a apporté, mais en tout cas, ça ne leur a pas fait de mal, puisqu'ils ont eu d'assez belles carrières.
Effectivement. Et d'ailleurs, votre titre aussi est symptomatique. C'est-à-dire que vous ne parlez pas d'art du roman, mais d'artisanat.
Oui, j'aurais bien pris atelier, mais c'était pris par Mario Vargas Llosa. Donc j'ai pris artisanat, mais enfin, ça me convient très bien. Oui, c'est pour mettre en avant la partie travail technique, la partie
travail manuel.
Établi, et il y a une part de ça, ce qui ne veut évidemment pas dire que l'inspiration, que les coups de génie que peuvent avoir certains écrivains, je ne parle pas de moi, n'existent pas. Hein. Les deux choses cohabitent, mais il ne faut pas escamoter ou nier l'importance de la technique.
Ouais. Évidemment, c'est un manuel avec toute une série de points d'entrée qui permet d'évaluer ce que c'est qu'une avoir une bonne idée de la manière de créer des personnages, etc., etc. Mais j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous un bon roman? Parce que au-delà de la grille d'analyse plus objective à travers les éléments que vous développez dans le livre, il y a aussi une part de mystère et quelque chose d'assez indicible dans ce qui fait une bonne histoire, de ce qui fait la petite musique qui va se mettre en route lorsqu'on va lire un livre. C'est quoi pour vous un bon roman?
Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, parce qu'il y a plein de façons d'écrire un bon roman. On pourrait dire tout simplement qu'un bon roman, c'est un roman qu'on lit avec plaisir, avec passion, voilà. Mais à part ça, les auteurs sont extrêmement différents. Vous avez par exemple les grands imaginatifs, comme Tolkien ou J.K. Rowling. Mais Annie Ernaux, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, fonctionne tout à fait autrement. Elle ne se base pas sur une imagination débordante, et pourtant elle écrit des merveilles. Donc il y a plein de façons d'écrire un bon roman, et les auteurs sont aussi différents que les peintres, que les sculpteurs, que les mathématiciens, parce qu'on a toujours l'idée que les gens qui pratiquent une discipline se ressemblent très fort. Mmh. Il y a des choses communes, bien sûr, mais il y a aussi, surtout, énormément de différences.
Mais est-ce que ça voudrait dire que si on a la technique, tout le monde, si on apprend cette technique, tout le monde peut devenir romancier?
Non. C'est-à-dire, écrire un roman, oui. Mais écrire un bon roman, voire un roman génial, non, nous ne sommes pas égaux devant toutes les disciplines qui s'offrent à nous. J'ai parlé de maths il y a deux secondes, j'aurais voulu devenir un mathématicien professionnel, ça n'aurait pas marché, je n'ai pas le cerveau qu'il faut pour. Alors, je peux, grâce à un bon enseignement, j'aurais pu aller jusqu'à un certain point dans les mathématiques, et tout le monde peut écrire un roman, mais tout le monde n'est pas Philip Roth, J.K. Rowling ou Tolkien ou Dumas, non.
Ou Stephen King, Gordel Patungra, il faut dire Stephen King, que vous citez notamment dans ce roman, dans ce livre, abondamment.
Et pour le plus cité, c'est Dumas. Stephen King est pas loin.
Il est en deux. Il est en deux. Vous le citez en début de livre pour cette phrase. La bonne fiction part toujours d'une histoire et progresse vers son thème. Elle ne part presque jamais du thème pour arriver à l'histoire. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une idée reçue. On se dit, tiens, on a envie de parler de tel ou tel sujet, on va trouver une histoire qui pourrait aborder ce thème-là.
En fait, certains auteurs l'ont fait ou le font, par exemple Zola. Par exemple, George Orwell, pour qui j'ai une admiration éperdue, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, ce sont les personnages, une histoire, une anecdote qui va se développer, et un auteur ne va se rendre compte des thèmes qui ont nourri son histoire qu'après coup ou parfois pendant, mais ce n'est pas à l'origine. Et il faut aussi dire tout de suite que quand c'est à l'origine, c'est très dangereux. Parce que si on n'est pas Orwell ou Zola, on risque de tomber dans le démonstratif, dans la démonstration, dans le message lourd. Ça ne veut pas dire évidemment que ceux qui fonctionnent comme moi à partir d'une idée, qui d'ailleurs souvent est plutôt une image qui m'arrive un jour comme ça et à partir de laquelle j'invente une histoire, ça ne veut pas dire que ces auteurs-là ne développent pas des idées, n'ont pas des choses à dire à travers leur roman. Simplement, ce n'est pas à partir d'une idée qu'ils vont construire leur histoire. Prenons Tolkien, par exemple. Il y a indéniablement, les exégètes sont d'accord là-dessus, un message écologiste dans le Seigneur des Anneaux. Il n'a pas écrit son livre pour ça. C'est juste que c'est quelque chose qui était en lui, qui le préoccupait énormément. Il vivait à l'ère industrielle anglaise, il voyait toutes les forêts d'Angleterre se détruire, ça lui faisait mal. Eh bien, ça a nourri son livre, mais encore une fois, le Seigneur n'a pas été écrit pour faire passer un message écologiste. C'était en lui.
Ouais. Les idées, écrire un roman, ben c'est à la base avoir une idée, et de préférence, il faut en avoir une bonne. Mais encore faut-il que cette idée soit adaptée à son auteur ou son autrice. Comment est-ce qu'on évalue qu'une idée, elle est adéquate pour celui ou celle qu'on est?
C'est pas facile, parce que une fois qu'on a cette idée, elle peut nous passionner, et puis on se lance et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc je dirais que il faut éprouver cette idée en écrivant. Alors une idée nous tombe dessus. Je le dis parce que ça c'est très important. On ne peut pas se mettre devant son ordinateur un jour, devant sa feuille blanche, en se disant aujourd'hui je trouve une grande idée. Ça ne marche jamais. Les bonnes idées nous tombent dessus. Stephen King le dit très bien, à l'improviste. Une fois qu'on a ça, qu'on est excité par quelque chose qui vous arrive, eh bien, il faut vivre un petit peu avec, commencer à imaginer les personnages, l'histoire. Et puis, moi, j'écris un résumé de 3-4 pages. Certains auteurs fonctionnent autrement. Et puis, je me lance. Et ça, c'est une épreuve, évidemment. Parfois, on se lance. C'est arrivé à tous les auteurs, je pense. Il y a peut-être des exceptions de se lancer dans une histoire. Et puis ça ne marche pas. Parce que l'idée ne nous convient pas. Parce que c'était pas une bonne idée objective. Elle ne l'aurait été pour personne.
Il faut tout
ou
commencer.
Bien parce qu'il manque une dimension. Parce que quelque chose manque. Exemple célèbre avec Marguerite Yourcenar et les mémoires d'Adrien. Elle a essayé plusieurs fois d'écrire ce livre. Chaque fois, ça ne marchait pas. Et ce n'est qu'après la guerre qu'elle a compris qu'il lui manquait la dimension homme d'État. C'était l'esthète, l'amoureux, le poète qui l'intéressait. Mais il manquait ça. Et après la guerre, peut-être parce qu'elle a fait des analyses historiques grâce à cette époque, elle a compris qu'Adrien était tout ce qu'elle avait pensé, mais aussi et peut-être surtout un homme d'État. Et là, elle était partie et ça a été un livre écrit sous une forme d'inspiration presque magique.
Alors, il y a des conseils pratico-pratiques, voire même graphiques, à savoir que, par exemple, vous n'écrivez jamais sans dessiner une carte. Vous dessinez une carte géographique avec les différents lieux, avec les déplacements éventuels des personnages, et en parallèle, un tableau chronologique, là, donc vraiment avec des cases, avec des colonnes, pour pouvoir se repérer en permanence et peut-être avoir des choses qui nous sautent aux yeux, qui ne nous seraient pas forcément venues à l'idée.
Oui, la carte, ça, c'est très important. Alors, moi, j'écris beaucoup de romans d'aventure où la géographie joue un rôle, où les personnages se déplacent. Mais c'est important et c'est un moment assez fondateur où on commence déjà à rêver à son histoire. Ensuite, ça permet de ne pas faire d'erreurs dans les déplacements, de savoir toujours où est le soleil, où est le nord, où est le sud.
Oui, ça peut être la carte d'une maison à l'intérieur de...
Bien sûr, oui. Le plan d'une maison. C'est très important parce que sinon, quand vous relisez votre livre, vous apercevez que votre personnage suivait des chemins qui n'étaient pas possibles, qu'il se serait cogné à un meuble. Enfin bon, ce sont des choses là vraiment, comme vous dites, pratico-pratiques, mais qui sont très importantes.
Écrire un roman, c'est évidemment avoir aussi un minimum d'originalité et c'est chasser les clichés qu'on risque d'enfiler dans un récit. Et alors, vous donnez un exemple très emblématique et qui vient pas du tout de la littérature, c'est Star Wars. C'est le vaisseau de Han Solo, hein, le Faucon Millenium, qui parvient à éviter les clichés du vaisseau spatial. Et vous allez jusqu'à dire que le vaisseau Faucon Millenium ajoute même beaucoup de vérité au film.
Oui, bon, c'est un grand souvenir de spectateur. Bon, vu mon âge, je l'ai vu à sa sortie. Et c'est une des un des éléments du film qui m'a énormément marqué, parce que ça venait contre l'idée reçue que j'avais et que la plupart des spectateurs avaient d'un vaisseau spatial comme d'une machine irréprochable, rutilante, etc. Et là, on avait un truc qui pétait de partout, qui n'arrivait pas à atteindre la vitesse de la lumière. Ils étaient tout le temps occupés, le Wookiee et Han Solo à réparer, etc. Bon, donc c'était extraordinaire. Et je pense que l'originalité a une grande importance pour la crédibilité des histoires. Si vous êtes dans des chemins trop arpentés, l'auteur est, on se rappelle un peu trop au lecteur, on y croit moins. Mais quand vous avez comme ça des idées aussi originales, eh oui, je pense que ça ajoute à la vérité d'un récit qui, bon, est un récit de science-fiction, un peu de fantasy. Mais bon, le travail d'un auteur, c'est avant tout faire pour que le lecteur, le spectateur, croit à ce qu'on lui raconte. Ça, c'est une obsession. Ça doit être une obsession.
Et à ce propos, il y a la question des descriptions. Alors ça, c'est vrai que ça nous rappelle aussi des souvenirs d'ado. On nous donnait des livres à lire à l'école. On disait, il y a trop de descriptions. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient aussi une question évolutive, parce que le lecteur, lui, s'est habitué à un rythme plus rapide, à avoir tout qui va beaucoup plus vite. Et donc, la question de la proportion de description devient un véritable enjeu, en fait.
Oui, en ce qui me concerne, je n'en mets pas trop, mais je continue à en mettre. Mais certains auteurs pourraient, et le font certainement, écrire des livres aujourd'hui, des romans aujourd'hui, il y a beaucoup de descriptions. La question, c'est de trouver le moyen de le faire de manière attrayante. Voilà. Et il y a des descriptions froides, quand on repense, je citais Théophile Gautier avec le début du Capitaine Fracasse, qui dans mes souvenirs de jeune lecteur avaient été un truc, absolument, pourtant c'est très bien écrit, mais ça m'avait prodigieusement ennuyé. C'était une description magnifiquement écrite, très précise, mais il n'y avait rien qui vibrait là-dedans. Et donc, comment faire quand on veut décrire pour trouver des moyens de rendre ça attrayant? Et l'un des grands auteurs du 19e siècle, qui peut être mon auteur préféré, c'est Stendhal, qui n'aimait pas décrire, n'aimait pas ça, ça l'ennuyait, et il a trouvé des manières de décrire de façon attrayante. Il était court dans ses descriptions, et il, comme je le dis dans le livre, il décrivait caméra au point, c'est-à-dire l'histoire ne s'arrêtait pas. Certains auteurs, comme Balzac par exemple, ou Jules Verne, quand un personnage arrive, ils font poser leur personnage. Tout s'arrête et on décrit le visage, les bottes, etc. Non, Stendhal, c'est toujours dans le mouvement, c'est enlevé, c'est magnifique. C'est un type qui écrivait au 19e siècle et qui peut encore nous donner des leçons aujourd'hui. Enfin, je ne voudrais pas dire du mal de Jules Verne, que j'adore, ou de Balzac, que j'adore aussi. C'est juste que sur cet aspect-là, je trouve qu'ils étaient moins forts que Stendhal.
Vous vous intéressez également au monde de l'édition et notamment à ce que vous appelez les romans produits. Vous faites référence à une littérature qui est très ciblée avec les collections à succès, et on pense notamment aujourd'hui à la dark romance qui a beaucoup de succès dans le segment ado ou young adult. Et vous dites finalement que ces œuvres, elles contribuent à inonder le marché d'œuvres moyennes, inférieures à ce que les auteurs ou autrices feraient hors de la contrainte.
Oui, c'est parce que j'avais un jour assisté à une conférence d'une éditrice d'une revue pour les ados et qui était favorable à toutes ces séries, et elle a eu cette phrase en disant ces auteurs qui travaillent dans des collections formatées, ça reste quand même des bons auteurs, ils sont des bons auteurs, donc voilà, il y a beaucoup de contraintes, mais ils font quand même des livres acceptables ou bons. C'est ce qu'elle disait. Moi, je trouve ça dommage, parce que je pense que la liberté créative permet aux auteurs de produire des choses. Enfin, produire, c'est pas très joli comme mot, mais de créer des œuvres bien meilleures que s'ils travaillent sous une forme pernicieuse de contraintes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de contraintes, on s'en donne à soi-même, il peut y en avoir de positives. Mais là, quand c'est un certain nombre de pages, quand c'est, comme une éditrice m'a un jour demandé par rapport à un texte, d'aller un peu plus vers l'espièglerie, enfin bon, là on entre vraiment dans la commande, dans tout ce que ça peut avoir de négatif au plan créatif.
Il y a pas mal d'exercices d'écriture dans votre manuel ou qui nous permettent de tester en fait ces techniques-là. N'ayez pas peur que de recevoir des copies, de devoir répondre après à des milliers de gens qui vont vous envoyer leurs essais.
Je ne serai pas obligé de le faire. C'est plutôt pour que les gens travaillent eux-mêmes Et alors peut-être en groupe aussi. C'est ce que je conseille, c'est de faire ça à deux ou trois et de faire ces exercices et puis d'en discuter ensemble, de lire les introductions parce que tout est là en fait. Hein. Ce sont pas des exercices qui sont hors sol. Hein. Il y a d'abord une introduction sur le sujet qui permet de réfléchir au dialogue par exemple, aux descriptions et les réflexions que je fais. Il y en a d'autres, hein, on peut en faire d'autres. Et puis, une fois qu'on a réfléchi, eh bien, on écrit ces petits exercices d'une manière qui est plus intéressante. Et alors, ben, si on est trois ou quatre à faire ces exercices, peut-être à en inventer d'ailleurs, je pense que ça peut être très, très riche.
On va peut-être s'y mettre, hein, Xavier, avec nos amis chroniqueurs. On va faire un petit travail d'équipe. Donc, Xavier quitte le projet. Xavier quitte le projet d'emblée. Mais enfin, si vous, peut-être, êtes écrivain, écrivaine en herbe, j'espère que voilà déjà quelques conseils de base. La suite, c'est dans l'artisanat du roman Initiation à l'écriture créative.